À voix nue. Cette semaine, Charlotte Bien-Aimée rencontre Christine Delphi. Ce soir, se dire féministe.
Bonsoir Christine Delphi.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir ici, dans votre petit appartement sous les toits parisiens. Vous êtes née en 1941, vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS. Vous êtes aussi militante et théoricienne féministe historique. Vous êtes à la fois très connue dans le milieu universitaire et militant, et en même temps, vous restez peu connue du grand public. Pourtant, vous êtes une figure majeure du mouvement féministe. Vous êtes une fondatrice du mouvement de libération des femmes en 1970 et de la revue Nouvelles questions féministes, aux côtés de Simone de Beauvoir notamment. Vous êtes l'une des représentantes du féminisme matérialiste. Vous avez forgé les concepts de travail domestique, de patriarcat, de genre. Votre œuvre est importante. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages théoriques, extrêmement riches, mais aussi accessibles. Votre écriture est percutante, drôle. Elle mélange sérieux et humour, colère et légèreté, ce qui est peu pratiqué dans le monde universitaire. Dans les années 2000, vous vous engagez dans un débat qui a profondément divisé le mouvement féministe, celui autour de la loi interdisant le port des signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques françaises. Vous vous opposez à cette loi et vous vous engagez dans une lutte contre l'islamophobie et le racisme. Vous publiez aussi de nombreux articles, préfaces, éditoriaux, tribunes dans les journaux, les revues spécialisées et sur votre blog. Vous avez toujours refusé la division entre textes militants et textes scientifiques. Vous nous l'expliquerez, Christine Delphi, et c'est un peu ce que nous tenterons de faire toute cette semaine dans cette série d'À voix nue, en faisant des allers-retours entre vos expériences personnelles, militantes et vos travaux scientifiques. Aujourd'hui, Christine Delphi, j'aimerais que l'on évoque avec vous votre prise de conscience féministe. La prise de conscience féministe est un processus important pour de nombreuses féministes. Parfois, il y a un déclic, une rencontre, une lecture. Parfois, c'est un processus plus progressif. Et vous, Christine Delphi, vous avez longtemps prononcé une phrase « Je ne suis pas féministe, mais » vous l'expliquez en 1985 dans une émission télévisée où vous étiez invitée avec Simone de Beauvoir. Donc, je ne suis pas féministe, mais pourquoi cette phrase? Qu'est-ce qu'elle raconte?
En fait, je suis devenue une féministe sans vraiment connaître le terme, d'ailleurs, assez tôt, et au cours d'une discussion que j'avais avec ma meilleure amie en sixième et en cinquième, j'étais choquée par le fait que mes parents, qui travaillaient tous les deux dans la même pharmacie, quand ils revenaient pour déjeuner, ma mère se précipitait à la cuisine, nous faisait rapidement un steak et une salade, et mon père s'asseyait dans un fauteuil, dans la salle à manger, et lisait le journal. Et quand elle nous arrachait les assiettes de sous le nez, parce qu'ils étaient pressés, pour aller faire la vaisselle, il se rasseyait dans le fauteuil et il lisait le journal. Et moi, je ne comprenais pas, parce qu'ils avaient les mêmes heures de travail. Ils partaient ensemble le matin, ils rentraient ensemble à midi, et puis le soir. Et j'en parlais avec cette meilleure amie, et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que... Alors c'était assez drôle, parce que au lieu de prendre l'exemple que j'avais sous les yeux, c'est-à-dire de la femme qui fait la cuisine puis la vaisselle, c'était une chose que je n'avais jamais vue, c'est l'idée de cirer les chaussures. Alors j'ai dit, mais pourquoi les femmes cirent les chaussures des hommes? Et elle m'avait répondu, mais parce qu'elles les aiment. Et je lui ai dit, mais oui, mais eux aussi, ils aiment leurs femmes. Donc il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Il y avait un amour qui cirait les chaussures et l'autre qui ne les cirait pas. Et donc j'étais sensible depuis que j'avais donc 11 ou 12 ans à ces inégalités et puis aussi à tout ce qu'on pouvait voir dans les cours de lycée. Après j'étais dans un lycée non mixte, je voyais bien qu'il y avait, une division entre les filles et les garçons, il y avait des remarques bizarres des garçons, enfin... Et je le disais librement dans ma famille. Et un jour, mon père m'a dit, ne sois pas féministe. Mais comme il m'aurait dit, ne te mets pas les doigts dans le nez. C'est-à-dire, c'était quelque chose de... C'était tabou, quoi. Si vous voulez, c'était une époque où le féminisme était décrié. On parlait des suffragettes en se moquant. Hein. C'est plus une question de mode. Donc après, je disais les mêmes choses, mais je les précédais de la phrase « Je ne suis pas féministe, mais... » Et je crois que je ne suis pas la seule à avoir fait ça.
À votre avis, pourquoi vous aviez cette conscience-là, si jeune?
Ben ça, j'en ai aucune idée. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas. La seule chose que je pourrais voir, mais ce n'est pas ça qui m'a encouragée à percevoir ces choses-là, c'est que nos parents ne nous parlaient jamais de mariage. Ils nous parlaient de ce qu'on ferait plus tard, comme métier. Ce que je trouve très sain, d'ailleurs. Parce que je trouve que parler de mariage à une fille, je veux dire, si elle veut se marier, elle se mariera après, mais il ne faut pas que ça l'empêche de faire des études. Puis alors, on avait une vision quand même, au moins en théorie, égalitaire des couples, puisque mes parents, les deux, étaient pharmaciens et travaillaient également et ensemble. On connaissait d'autres couples, des amis de mes parents, et ils avaient aussi le même métier. Ils étaient instituteurs tous les deux. Donc j'avais une vision peut-être biaisée du couple. Ça n'empêchait pas les femmes de faire tout le travail ménager et domestique. Hein. Mais ça, je le percevais, bien sûr. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi, en effet. J'étais... Peut-être une autre raison, c'est que j'avais une grande confiance en moi. Et je pensais toujours que j'avais raison. Et puis ma famille, ma mère, mon père, ils m'admiraient beaucoup. Je faisais des blagues et mes parents ensuite racontaient mes bons mots à leurs amis. Et... Donc j'avais une grande confiance en moi.
Et vous racontez dans un film que vous avez réalisé avec Sylvie Tissot en 2011 que votre maman aussi avait un mépris de la famille, qu'elle vous a transmis quelque part ce mépris de la famille.
Ben oui, elle était dans une famille, mais elle trouvait que c'était... quand on était tous ensemble, elle parlait de la famille écœurante. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui lui semblait, je ne sais pas, sans doute bourgeois ou trop traditionnel. Mais elle n'explicitait pas. Hein. Elle disait simplement, ah tiens, là on est une famille écœurante parce qu'on était avec ma sœur, mon père et puis mon oncle... Il y avait quelque chose d'un peu ridicule dans ce groupe familial. Voilà.
Vous êtes donc, Christine Delphi, une élève brillante, mais rebelle. Vous vous faites renvoyer de presque tous les lycées dans lesquels vous étiez inscrite. Vous obtenez quand même le bac, puis vous étudiez la sociologie. Est-ce que l'université a participé à forger votre prise de conscience féministe ?
Pas vraiment. J'ai beaucoup profité des cours de psychologie sociale. Des cours de sociologie, moins. Ben, c'était fait par des grands maîtres comme Raymond Aron, qui avait comme assistant, un de ses assistants était Bourdieu. Alors je trouvais ce qu'il disait très intéressant, mais je ne peux pas dire que ça m'apprenait vraiment les fondements de la sociologie. Ça, c'est quand j'étais aux États-Unis que j'ai compris ça, en fait, oui.
Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites que ces grands maîtres ne vous ont pas appris ces fondements-là ?
Ben, parce que je ne voyais pas vraiment, je l'ai vu après, en quoi la sociologie finalement se distinguait de d'autres disciplines dans ce qu'il disait. Il parlait beaucoup, il parlait bien, mais je pense que c'est plutôt les cours que j'ai eus en psychologie sociale qui m'ont fait comprendre justement un certain type de relativisme culturel, en particulier en ce qui concerne les langues. J'ai vu que beaucoup de choses étaient des conventions, qu'elles étaient culturelles. Par exemple, au lieu de faire... Vous savez, quand vous éternuez, tout le monde dit « atchoum », on dit quelque chose, il y a une onomatopée, qui n'est pas dictée par ce qui se passe dans votre nez et dans votre gorge. Donc moi, pendant des mois, je me suis entraînée à dire « tchouma », de façon à ce que ça devienne aussi automatique, quoi, pour appliquer le fait que le langage était quelque chose de culturel.
Et est-ce que votre lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir a été un moment important ?
Très, comme pour toutes les femmes qui l'ont lu, très important. Et que, en effet, ça m'a vraiment bouleversée, appris des choses et... Ensuite, d'ailleurs, je l'ai écrit dans un article, il y a beaucoup de choses que j'ai cru trouver moi-même et je me rendais compte ensuite que je l'avais appris chez Simone de Beauvoir. C'est quand même un livre magnifique, surtout quand on pense à l'époque où il est paru.
1949.
Mais En fait, par moments, je trouvais qu'elle n'allait pas assez loin. Et je ne me rappelle plus à quel moment, mais par exemple, après, mais ça, ce n'était pas au moment où je l'ai lu, parce que je l'ai lu en France. Quand j'étais aux États-Unis, je m'étais procuré à peu près les œuvres complètes de Freud, qui existaient en anglais, mais pas en français. Et j'étais vraiment écœurée par la psychanalyse. C'était d'un machisme ahurissant. J'ai dit machisme maintenant, ce qui ne se disait évidemment pas à l'époque. Tout ce que dit Freud sur les femmes, sur les hommes, sur le désir, sur la sexualité, tout ça, c'est écœurant, quoi. Et il avait aussi une drôle de conception, par exemple, de la maladie. Par exemple, dans le cas de, je crois que c'est le cas de Dora, c'est une jeune femme qui a des troubles psychologiques, je ne sais pas exactement lesquels, je ne m'en rappelle plus, mais elle avait un prétendant que lui, Freud, trouvait très bien. Très bien, tout aspect, il était beau, il était riche, etc. Et donc, il estimait qu'elle était malade parce qu'elle l'avait refusé. C'était un homme qui voyait... Il décrédibilisait tout ce que les gens qui n'étaient pas lui disaient. Sa vision et la vision de la réalité étaient la même. Et ce que les autres disaient découlait d'une maladie, d'un trouble mental, etc. Non, mais si vous relisez Freud, vous verrez, c'est atterrant, hein.
Là, vous nous parlez de Freud, on était parti sur Simone de Beauvoir, alors pourquoi vous avez...
Ah, pourquoi j'ai... Eh bien, je trouvais par exemple qu'elle était trop influencée, mais ça, c'était pas dans ma première lecture, trop influencée par la psychanalyse. C'est-à-dire qu'elle fait des allers-retours, et elle veut prendre en compte tout le monde et toutes les opinions, et elle essaye de faire une espèce d'équilibre entre tous ces trucs-là, et c'est pas possible. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, c'est Sartre qui l'a poussé à étudier la biologie, ou à étudier Freud aussi. Elle ne l'aurait pas forcément fait d'elle-même.
C'est elle qui vous l'a raconté ?
Non, c'est écrit dans ses mémoires, je crois.
Parce que vous avez beaucoup travaillé avec elle.
Je ne sais pas qui travaillait avec elle, mais Beauvoir, c'était quelqu'un qui vous donnait un rendez-vous. Vous saviez que vous aviez une heure, il fallait arriver à l'heure pile. Elle vous accueillait très gentiment, elle vous offrait du whisky. Et puis, il fallait regarder sa montre parce qu'on savait qu'on avait une heure. C'est quelqu'un de toute façon, elle est assez remarquable, je ne dis pas admirable, mais remarquable dans ce sens-là. Dans son journal, on voit très bien que dès sa jeunesse, elle minute son temps et elle minute son temps aux autres aussi. Elle le donne par vraiment petits bouts, quoi. Ouais. Quelqu'un de très organisé.
Et au cours de votre adolescence, Christine Delphi, vous prenez aussi conscience de votre homosexualité. Comment s'est passée cette prise de conscience avec votre famille, vos amis, votre entourage ?
Mes parents, enfin surtout ma mère, parce que mon père ne voulait pas se mêler de ça. Mon père était charmant, mais c'était plutôt un lâche. Donc, je ne voulais pas... Mais ma mère, une fois, m'a fait une réflexion. On avait une dispute ordinaire, une dispute, vous savez, familiale autour de qui a fait la vaisselle, qui l'a pas fait, qui a laissé ses affaires en vrac dans sa chambre, enfin, un peu des bêtises. Et à un moment, d'ailleurs, ma mère m'a dit, d'ailleurs, tu es un monstre. Et j'ai compris à quoi elle faisait allusion. Et du coup, je crois que j'avais... quel âge j'avais ? Oh, bon, j'étais plus une gamine. Je crois que j'avais pas terminé ma licence, mais entre 17 et 18 ans, je suis partie. Je suis partie, tout simplement. Je leur ai dit dans quel pays j'étais. J'étais allée en Suisse. Je voulais pas qu'ils préviennent la police ou qu'ils s'affolent trop. Mais je leur ai pas donné de moyen de me joindre. Et je suis partie pendant 3 jours. Et quand je suis revenue... 3 jours après, alors que ma mère faisait des histoires, si je rentrais trop tard le soir ou des choses comme ça, elle m'a rien dit. C'était comme si j'avais juste été à la boulangerie. Et donc voilà, j'avais gagné ça.
Et après, elle a accepté ?
C'est pas tellement qu'elle a accepté, c'est que... Mais elle pouvait guère me faire changer. Donc là, elle m'avait dit quelque chose, elle avait compris qu'il fallait pas qu'elle me dise ça. autrement je partirais. Après, elle avait... oui, mes parents m'ont donné, de ce point de vue-là, on m'a donné, mais permis, une grande liberté. Moi, j'amenais des amis dans notre maison de campagne, par exemple. C'est-à-dire qu'ils étaient comme tout le monde, ils avaient des préjugés homophobes, mais ils étaient facilement gagnés par la personnalité d'une de mes amies, mes parents, en particulier mon père, qu'elle flattait en l'appelant par son petit nom familial. Il était comme de la pâte à modeler dans ses mains. Hein, oui. Donc c'était vraiment très... C'était superficiel, c'était... oui, c'était assez bizarre. Enfin, c'était pas bizarre, mais disons que... Non, il n'a jamais été question chez nous de « je te renvoie, tu n'es plus ma fille » ou des bêtises comme ça. Oui.
Et pour reconnaître à vous-même votre homosexualité, est-ce que ça a été difficile ?
Ah oui, 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 parce que mon but dans la vie n'était pas du tout d'être homosexuel, ni d'être hétérosexuel. Mon but était d'être bisexuel. Parce que les seules lectures qu'on avait à ce moment-là, c'était en particulier Colette. Moi, j'avais lu Colette très tôt parce que c'était dans la bibliothèque de mes parents. Pour vous dire, j'ai lu Chérie à 12 ans. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré sur le sort de cette femme qui est, je ne sais pas quel âge elle a, mais qui est plus âgée que son amant. Et moi-même, je m'étonnais, je me disais, mais comment, j'ai 12 ans et pourquoi je pleure sur le sort de cette femme abandonnée par son jeune amant ? Mais pourquoi la littérature vous fait... appréhender beaucoup plus de choses que l'expérience, d'une certaine façon. Et donc, j'avais lu les Claudine et tout ça, et donc elle parlait librement de son attirance pour les femmes, et comme elle était, elle, bisexuelle, eh ben, c'était mon but dans la vie, parce que j'ai compris très tôt que ce qui était reproché aux homosexuels, ce n'était pas d'avoir des relations avec les femmes, c'était de ne pas en avoir avec les hommes. Et donc, je voulais désespérément en avoir avec les hommes, mais je n'y arrivais pas. Parce que, il y en avait que j'aimais beaucoup, mais bon, j'étais pas amoureuse d'eux, j'avais pas du tout envie de coucher avec eux.
Et alors, votre but, c'était d'être bisexuel, mais ça n'a pas marché, alors?
Ça n'a pas marché. Je me suis dit, il faut pas continuer dans cette voie, puisque ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, donc, je ne vais plus sortir avec des garçons. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, qu'en fait, alors qu'il n'y avait aucune injonction explicite à ça, on devait sortir avec des garçons. On devait sortir avec des garçons.
Vous racontez qu'adolescente et jeune femme, vous avez vécu plusieurs histoires douloureuses avec les femmes qui, ouais, elles, ne reconnaissaient pas, enfin, en tout cas, qui pour elles, les couples de même sexe étaient quelque chose d'anormal.
Même pas les couples, même les relations, même si on arrivait à les cacher, parce qu'il n'était pas question de les montrer, hein. C'était une horreur, hein, l'homosexualité, à cette époque-là. Hein.
En 1962, Christine Delphi, vous obtenez une bourse pour aller étudier aux États-Unis, à l'université de Chicago, puis de Berkeley. Vous avez travaillé pour une association de lutte pour les droits civiques. Qu'est-ce que l'expérience américaine vous a apporté ?
Alors, c'était une association qui est une des deux plus vieilles aux États-Unis. Il y a la NAACP, qui est la National Association for Colored People, pour les gens de couleur, et celle-là, c'était la National Urban League, qui a des branches partout aux États-Unis. C'était la seule ville où on m'ait proposé un travail. Et je me suis rendu compte pourquoi après, hein, enfin, c'est que, en fait, ils voulaient des jeunes hommes blancs de préférence, hein, pour faire du fundraising, pour aller demander de l'argent aux gens riches, aux blancs, quoi. Aux blancs comme nous, on était tous des blancs. On était tous des blancs. Donc les femmes avaient peu de chances d'arriver à obtenir un job quelque part. Donc c'était le seul qui me demandait. En fait, je suis partie avant le moment où je devais partir parce que je m'ennuyais beaucoup, quoi. S'il n'y avait rien de très intéressant là-dedans. J'aurais voulu être dans un groupe vraiment militant, comme SNCC, vous savez, le truc de Luther King, ou CORE, qui étaient des associations vraiment très, très intéressantes. Moi, j'étais là en 64-65, et c'était deux associations qui, d'ailleurs, avaient décidé de devenir non-mixtes.
Vous dites que vous ennuyez, vous découvrez quand même la lutte pour les droits civiques. Ça, c'est quelque chose qui sera très important.
Non, mais je l'avais découvert avant. Moi, je suis arrivée en 62, c'était un été chaud. Donc ça m'a passionnée, hein, de découvrir cette lutte et puis de découvrir ce qu'était l'oppression des Noirs, surtout dans le Sud, mais pas seulement dans le Sud. L'université de Chicago, par exemple, était une espèce d'îlot blanc à l'intérieur d'un quartier qui était fondamentalement noir. Et la ville de Chicago démolissait tous les bâtiments autour de l'université. Et on l'appelait Urban Renewal, Negro Removal, parce qu'ils savaient très bien ce qu'on était en train de faire. Et on était de l'autre côté d'une avenue, et de l'autre côté de cette avenue, c'était vraiment le quartier noir. Oui, il n'y avait pas de...
Et ça, vous vous souvenez, vous vous êtes étonné quand vous découvrez tout ça? Vous connaissiez, vous saviez déjà
ou... Non, je ne savais pas déjà. C'est justement pour ça que ça m'a tellement intéressée.
Donc vous découvrez le racisme aux États-Unis?
Alors, c'est assez curieux parce que j'aurais pu le découvrir chez moi. Parce que là où j'habitais, dans le quartier Nation, eh bien, je voyais bien qu'il y avait des Arabes qui marchaient dans la rue et qui étaient assez... Il y en avait pas mal dans ce quartier-là. Et qui rasaient les murs, littéralement. Hein. Et qui marchaient d'une drôle de façon parce qu'ils n'étaient pas habitués à marcher avec des chaussures. Mais pour moi, c'était vraiment une autre population. Hein. C'était des gens qui étaient potentiellement dangereux, en plus, qui étaient vus comme ça.
Vous aviez cette idée-là, en partant aux États-Unis?
C'est pas que j'avais cette idée-là, parce que ça ne me troublait pas particulièrement, hein. Mais c'était comme ça, c'était la vision de la réalité qu'avait tout le milieu où je vivais, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis vous ont profondément changé, même au niveau politiquement?
Absolument.
Comment vous êtes avant d'y aller? Comment vous êtes en revenant?
Avant d'y aller, le racisme français me semblait quelque chose de normal. C'était ça qui était assez bizarre, parce que j'étais dans un milieu blanc et on trouvait ce racisme normal. Et aux États-Unis, j'ai découvert qu'il y avait tous ces jeunes blancs et blanches qui s'engageaient dans la lutte antiraciste, etc. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, quand il y avait des Algériens, ou des Tunisiens, ou des Marocains, parce que je ne connaissais pas leur nationalité d'origine, ils venaient avec l'idée de pas de faire fortune, mais de se constituer un petit pécule avec lequel ils pourraient acheter une maison en Algérie. Donc avec l'idée du retour. Et cette idée du retour, elle a duré très longtemps. Donc on les voyait comme des gens totalement étrangers, qui étaient là de passage, qui étaient peut-être potentiellement dangereux, d'ailleurs on les affublait des noms que vous connaissez, les bicots, etc. Mais ils n'étaient pas là pour rester. Ils pensaient eux-mêmes qu'ils n'étaient pas là pour rester. Alors que les Noirs aux États-Unis, on savait qu'ils étaient issus de l'esclavage et que ça faisait 4 siècles que ça durait, 4 siècles ou plus. Donc la structure globale était différente, hein. Et en effet, oui, je suis revenue avec une conscience du racisme.
Vous renforcez aussi votre prise de conscience féministe après avoir été victime de harcèlement, notamment aux États-Unis.
Oui. Ah oui, c'est que le directeur de cette organisation, donc, qui était la Washington Urban League, m'a harcelé sexuellement une fois et... Je m'étais dit, c'est quand même incroyable, voilà des gens qui luttent pour être libérés d'une oppression et qui n'hésitent pas à profiter de leur statut d'homme pour essayer d'opprimer les femmes. Hein, parce que je ne pensais pas que j'étais la seule dans ce cas-là.
Ce qui a participé aussi à renforcer votre conscience féministe, c'est beaucoup de discussions avec une amie que vous avez rencontrée aux États-Unis, Emmanuelle de Lesseps.
Oui, bien sûr. Oui, ça a été... D'ailleurs, c'était la seule personne avec qui... je pouvais parler de ça comme moi, j'étais la seule personne avec qui elle pouvait parler de ça. On parlait de l'interaction avec les hommes et en fait, on rigolait beaucoup, mais on savait que c'était pas drôle. Et on disait tous les trucs ridicules et sexistes, simplement on n'appelait pas ça sexiste, que les mecs faisaient. Faisaient quand on était avec eux, quoi. Qui savaient tout mieux que nous. Vous donnez un exemple qui m'est arrivé à moi, mais enfin que j'ai retenu parce qu'il y en aurait tellement d'autres. Enfin, j'étais au sport d'hiver et vous savez, dans les télésièges, souvent, c'était des télésièges à deux. Bon, à côté de moi, il y avait un jeune homme qui avait à peu près le même âge que moi et on parlait de ça. Enfin, il m'avait dit ce qu'il faisait, lui. Et il m'a dit, vous, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, mais moi, je fais sociologie. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis à m'expliquer ce que c'était que la sociologie. Et je crois qu'il était, je ne sais pas, étudiant en médecine ou en ingénierie. J'étais quand même assez stupéfaite. Et c'est à ce moment-là, je crois, que je me suis dit, moi, je ne lutterai plus jamais pour personne. C'est vrai que je suis revenue avec l'idée que je devais lutter pour mon peuple. Mais ce n'est pas mon peuple, hein, c'est my people, c'est mes semblables. Et alors, j'en ai parlé avec Emmanuel de Lesseps. Mais je pensais que c'était que je pouvais le dire à personne d'autre que je passerais pour folle. Parce que l'idée d'un mouvement de femmes, mais ça n'existait pas du tout.
Cette envie, ce rêve d'un mouvement de femmes, vous allez réussir à le concrétiser puisque vous allez participer à la fondation du mouvement pour la libération des femmes en 1970. C'est ce dont nous parlerons demain dans le deuxième épisode d'À Voix Nue, Libération des femmes, année zéro. Merci Christine Delphi. À demain.
À demain Charlotte.
De cette rencontre de Charlotte Bien-Aimée avec Christine Delphi. À Voix Nue, réalisation Anaël Brouard, prise de son Pierre Quintard, coordination Daphné Abgral. À Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.